Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour. Je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la bienvenue à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Vous vous souviendrez peut-être de l'épisode du 16 avril 2024, au cours duquel Sylvie Grégoire nous faisait part de son périple un peu fou, soit de traverser la France à pied, du nord au sud, à travers montagnes, campagnes et villages, et surtout sans destination précise. Elle nous a raconté avec passion sa grande aventure de 1616 kilomètres à parcourir avec son époux François Roland et de découvrir une France du terroir, avec son histoire, ses paysages et ses habitants. Tout ça sous le signe de la douce lenteur, si bien décrit dans son livre « La France pas à pas, côte à côte ». La voici qui nous revient avec son nouvel ouvrage « La France hors des sentiers battus ». Ce guide pratique présente tout ce qu'il faut pour concevoir, préparer et réaliser sa propre aventure hors des sentiers battus, où que nous allions. De quoi réaliser son propre rêve, un peu fou, bien sûr. En deuxième partie de l'émission, notre serein pèlerin Michel O'Neill nous présente la première de ses trouvailles de la saison, qui s'harmonise merveilleusement bien à l'entretien que j'ai eu récemment avec Sylvie Grégoire. Alors à toutes et tous, bonne écoute et bonne rêverie. Alors Sylvie Grégoire, merci beaucoup de votre deuxième visite à Marcher vers le bien-être.
Merci beaucoup Denis pour cette belle invitation. C'est un bonheur d'être de retour à votre micro.
Et c'est partagé avec nos auditeurs aussi. Écoutez Sylvie, la première fois, vous nous avez parlé de votre livre « La France pas à pas, côte à côte ». Et on peut réécouter l'émission sur le site jemarchepartout.com, onglet Radio VM, et on trouve facilement grâce au moteur de recherche. Mais pour ceux qui n'ont pas eu le temps vraiment d'écouter ou de réécouter, parlez-nous brièvement de ce que vous racontez dans « La France pas à pas, côte à côte ».
Alors, il s'agit d'un récit de notre grande aventure sous forme de journal au fur et à mesure de nos pas, de l'avancement de notre grande traversée de la France à pied, évidemment. On est à votre émission sur la marche. Donc, nous sommes partis du nord de la France à la Manche, de Boulogne-sur-Mer jusqu'à la Méditerranée, c'est-à-dire à la Grande Motte. Nous avons tout fait ça à pied et nous avons traversé des régions méconnues. C'était un de nos objectifs d'apprendre à connaître une autre France, de passer par l'arrière-pays, par les montagnes, les villages, les forêts, les fermes, etc. Des endroits qui sont moins fréquentés par les touristes. Et donc, c'était notre aventure. Et le livre, il s'agit donc d'un récit de notre aventure.
Et ce qu'il y a de particulier, c'est que vous n'étiez pas du tout organisé. Et là, j'entends au niveau des différentes étapes. Vous saviez d'où vous partiez, vous connaissiez la destination, mais entre les deux, la grande aventure.
Je dirais même que nous ne connaissions pas la destination, nous connaissions la direction.
La direction,
alors, nous partions du nord et nous voulions arriver à la côte sud, à la Méditerranée. Mais effectivement, nous n'avions réservé que le premier soir en hébergement. Et ensuite, notre objectif était d'y aller au jour le jour. Et donc, nous n'avions pas tracé d'itinéraire. Nous ne suivions pas un chemin qui était balisé. Nous n'avions pas des cartes qui nous indiquaient par où passer, les étapes, etc. On voulait se donner la liberté. Et c'est ça qui est un peu particulier. Bon, certaines personnes qu'on rencontre nous disent « Ah, vous avez fait le chemin de Compostelle ». Pas du tout ici. On a tracé notre voie, notre chemin. C'était notre aventure qu'on traçait au fur et à mesure des hébergements.
Et cette aventure a plu beaucoup à nombre de lecteurs, bien sûr, et nombre d'auditeurs de Marcher vers le bien-être. Et là, vous vous dites, peut-être il y a des gens qui vous ont posé la question, mais comment on fait? Comment on se prépare? Et là, vous avez décidé de publier un deuxième livre qui est un peu le compagnon et qui s'appelle « La France hors des sentiers battus » pour mieux se préparer justement, pour permettre à d'autres personnes, auditeurs, et etc., de vivre leur propre aventure de la même façon, c'est-à-dire devant les connus.
Effectivement, le « Hors des sentiers battus », il s'agit plutôt d'un guide pour préparer votre propre aventure. Alors, bien sûr, d'un côté, on avait eu plusieurs questions sur notre itinéraire, des gens qui étaient tentés de suivre le même itinéraire qui, par hasard, s'était avéré absolument magnifique et aussi faisable. Et donc, d'un côté, il y a notre itinéraire qui est détaillé jour par jour avec le village de départ et le village d'arrivée pour cette journée-là. Mais, effectivement, une des invitations que je faisais, c'était tracer votre propre itinéraire. Allez-y au gré de vos capacités, de vos goûts, du temps dont vous disposez. Puis, une autre partie du livre, donc, adresse comment se préparer, quoi apporter à plusieurs niveaux.
Quand je dis c'est un complément au premier livre, La France pas à pas, côte à côte, dans le premier, tout était plus ou moins en parole. Voilà, c'était le texte, en fait, qui racontait votre voyage, ce que je trouve très particulier et inspirant pour les lecteurs du deuxième. C'est effectivement, vous avez pour chaque étape de belles photos, une carte géographique, quelques citations, en fait, quelques pensées et un itinéraire visuel, en fait, en quelque sorte, plutôt que en parole ou en mots.
Exactement. Alors, il y a des personnes qui aiment lire des récits de voyage, puis d'autres qui aiment plutôt voir ça avec des photos, avec des cartes, avec quelques indications. C'est ça, oui. Et donc, c'est plutôt de ce type-là que... c'est ce genre d'information qui figure dans le deuxième livre. Et oui, il est rempli de photos.
Magnifique.
Ce sont des photos que j'ai prises au fil de notre aventure. Et elles sont effectivement, j'ai fait lien avec des passages du récit de voyage pour un peu décrire le contexte des photos et parfois le lieu.
C'est ça. Et c'est beaucoup de travail de recenser tout ça. En fait, vous aviez des notes et tout, les photos. Une photo d'une carte ou une image d'une carte géographique qui démontre exactement votre point de départ et d'arrivée de ce jour-là. Et c'est complet, vraiment complet comme...
Ça a été effectivement beaucoup de travail et ce qui m'a notamment aidée, c'est que j'utilisais des cartes papier pendant notre traversée et j'avais posté toutes les cartes sur lesquelles j'avais tracé notre itinéraire chez nous. Bien, évidemment, je ne voulais pas traîner ça avec moi. Et donc, j'avais chez moi à ma disposition toutes les cartes, vraiment notre itinéraire qui était tracé. Alors ça a été très, très utile, mais effectivement, beaucoup de travail pour tout le refaire. Et j'ai eu le feu vert de l'entreprise ou l'organisme IGN, qui est l'Institut géographique national de France, qui m'ont permis d'utiliser leurs cartes qui sont sur leur site, parce qu'ils ont, oui, des cartes papier, mais ils ont aussi des applications mobiles pour ceux qui sont plus techno. Nous, on l'a fait un peu à l'ancienne, là, avec les cartes papier, moi, que j'aime beaucoup. Mais c'est possible de le faire avec une application sur son téléphone, et de façon plus actuelle là, pour certains. Et donc, IGN m'a permis d'utiliser, de reproduire chacun des segments là, de notre itinéraire.
Je crois que c'est l'Institut de géographie nationale, c'est ça? Oui.
Exact.
Et donc, vous avez pris des photos de chacune des parties des cartes correspondant à l'itinéraire du jour.
Oui, oui.
Quelle bonne idée. Bon, on y reviendra un peu tout à l'heure. Alors, dans ce deuxième livre, vous parlez beaucoup plus de préparation, en fait. Et là, on revient au concept de préparer votre propre aventure. Ne suivez pas mes pas, ou dans mes pas, mais c'est votre propre aventure.
Effectivement. Même si nous n'avions pas tracé notre itinéraire, nous avions quand même posé des gestes pour nous préparer à cette aventure-là. Et autant au niveau mental, physique, l'équipement dont nous avions besoin, nous avons suivi un atelier. Alors tout ça, on a bénéficié de ces précieux conseils-là. On a eu l'expérience en les mettant en application pendant notre aventure. Et donc, c'est ce que vous retrouverez dans le livre. Et donc, ça peut être une marche à long cours telle que celle que nous avons réalisée, mm-hmm. ou ça peut se faire par petits morceaux. Alors, on peut partir 10 jours, 2 semaines. Il n'y a pas d'obligation d'y consacrer là, tout un été comme nous l'avons fait.
Ça peut être pour des randonnées justement plus courtes. Là.
Exact.
C'est ça. Mais quand même de plusieurs jours.
Oui.
Alors, parlons d'abord du mental, et parce que c'est très important, surtout si on part sans être sans destination et sans point de repère tout au long. Alors, on n'a rien préparé à l'avance. Alors, peut-être au niveau du mental, on pourrait se dire, quelles sont les raisons pour s'aventurer comme ça?
Alors, pour nous, et puis chacun peut avoir ses raisons, je vais partager les nôtres. Alors, en passant, j'ai réalisé cette aventure-là avec mon mari François Roland. Et donc, pour nous, nous voulions nous donner le cadeau de la liberté et d'un été à profiter pleinement de chaque journée. Et donc, c'était notre objectif principal, de sortir. Dans la vie, on essaie toujours de contrôler, de remplir chaque minute. Et là, on voulait se donner la liberté, le temps, un peu le tourisme lent, pouvoir savourer, oui. observer. Et ça a vraiment guidé nos choix. Et aussi avoir la flexibilité. Alors, si on trace un itinéraire très détaillé, puis qu'on n'est pas rendu à tel objectif ou telle ville, ça peut créer des malaises, des conflits. Là, on y allait jour par jour. Alors, ça, c'est une décision à prendre avant de partir. C'est sûr que le pendant de ça, c'est qu'il y a une certaine incertitude, inconfort. Il faut apprendre à vivre avec... on n'a pas toutes les réponses. Et par exemple, lorsque nous sommes partis, on ne savait pas combien de kilomètres nous aurions à faire. On ne savait pas, est-ce que ça se fait de traverser tout un pays à pied sans avoir à prendre un véhicule ou un taxi ou un autobus? Il y a les périphériques, il y a les autoroutes. Est-ce qu'on peut passer partout? Et donc, on a fait confiance à la vie. On s'est dit, et puis, en plus, est-ce que nous, peut-être que ça se fait, mais est-ce que nous, on n'est pas des super athlètes? Puis on a quand même un certain âge. François avait 68 ans lorsque nous sommes partis, moi 55. Est-ce que nous serions capables de réaliser ça? Alors, on s'est dit, on va faire confiance à la vie. On est parti, puis on verra comment les choses se passent.
Comment aller au-delà de l'appréhension qu'on pourrait avoir de partir à cette grande aventure? Et c'est pas évident, j'imagine, pour certaines personnes.
Exact. Alors, c'est vraiment lâcher prise et profiter du cadeau d'avoir le temps. D'avoir le temps de s'arrêter, de peut-être vouloir rester quelques jours dans un endroit qui nous plaît, prendre des jours de repos. Si on a un itinéraire qui est très détaillé, des réservations faites, on ne peut pas profiter de cette liberté-là.
Est-ce qu'on doit mettre beaucoup de temps à se préparer mentalement pour une aventure comme ça? Là, ça dépend des personnes, bien sûr.
C'est ça. Ça dépend des personnes. Puis, l'autre aspect, c'est que même si on n'a pas préparé l'itinéraire, il y a quand même des étapes, des choses à faire au niveau de... Bon, si ce n'est qu'on laisse derrière nous notre maison, peut-être des animaux, peut-être des plantes ou des engagements. Alors, donc, il y a des listes, il y a des gestes à poser avant de partir.
Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est intéressant cette notion de lâcher prise dans un monde qui est très organisé, très structuré, les horaires de famille, de travail, et ainsi de suite. Pas évident, n'est-ce pas, de, de tout laisser.
C'est pas évident, mais en même temps, c'est un tel sentiment de c'est un tel privilège, c'est un tel cadeau. Et je me rappelle de différents moments sur la route où, par exemple, je m'étais arrêtée pour écouter les clarines des vaches dans leur cou. Quel cadeau de pouvoir prendre le temps de profiter de ça, de profiter de s'arrêter, prendre la pause café aussi longtemps qu'on le veut. Et une fois qu'on commence à goûter à ça, bien, on y prend vraiment plaisir.
Alors, on se place dans un état d'esprit de rêver, de laisser aller toutes les inhibitions et de réaliser nos rêves.
C'est ça. Puis on est dans une situation où on n'a pas mille choses qui nous trottent dans la tête. « Oh, il faut que je fasse telle chose, il faut que j'appelle telle personne. » On est vraiment, quand on dit dans le moment présent, à profiter, à regarder, à observer, à savourer. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais il y a quand même des choses à faire avant de partir. Ça,
on en parle tout de suite. Alors, au niveau physique, là, on a parlé du mental. Au niveau physique, concret, il faut être en forme. J'imagine pour partir, il y a une espèce d'entraînement ou de formation.
Sans être des super athlètes, effectivement, on ne part pas de zéro et partir marcher pendant un mois ou deux comme ça. C'est une bonne idée de faire des marches de pratique, de préparation régulièrement, même y aller avec son sac sur le dos, des bâtons pour s'habituer au poids, voir s'il y a des ajustements à faire avec l'équipement, avec les chaussures. Alors, effectivement, c'est une bonne pratique. François et moi, nous étions quand même assez sportifs, donc on pratiquait d'autres sports et ça aide beaucoup. C'est aussi très important lorsque l'on commence, de ne pas commencer de 0 à 40 km. Alors, on fait des petites journées et ça, c'est garder ça en tête lorsqu'on prépare notre expédition, qu'au début, il faut que le corps s'adapte et au fil des jours, on trouve notre rythme et le corps, même les muscles se réveillent et on peut étirer là, les étapes.
Et combien de temps vous avez mis à vous préparer, justement, physiquement? Vous étiez déjà un petit peu en forme, là, mais...
Je dirais que c'est toujours... Peut-être quelques mois, là, serait une bonne indication.
Excellent. Parce qu'on part quand même pour plusieurs semaines, dans des cas, plusieurs mois.
C'est ça. Ça dépend aussi de la forme de chacun. Il y en a qui font déjà beaucoup de sport et qui sont prêts à partir demain.
Alors, au niveau de l'équipement, nous en avons parlé à l'autre émission, mais est-ce qu'il y a des essentiels qui vous reviennent à la tête pour dire il faut absolument partir avec ces éléments?
Un conseil, c'est de ne pas lésiner dans la qualité des équipements. Et ça fait toute la différence lorsqu'on a une bonne paire de chaussures, des bâtons qui sont légers. Pour nous, les bâtons, c'est essentiel. Je sais que vous allez en parler dans d'autres chroniques, mais les bâtons permettent de répartir le poids, nous donner un poids d'appui additionnel. Ça nous permet aussi de regarder le paysage. On sait qu'on est plus stable, alors on n'a pas à avoir la tête sur le trottoir ou sur le sentier tout le temps. Donc, les bâtons, absolument. Le sac à dos devrait être bien ajusté avec un sac d'hydratation. Ça, c'est vraiment important. Au lieu de transporter des bouteilles, ça peut être une gourde, mais une gourde, c'est petit. Le sac d'hydratation qui est inséré à l'intérieur du sac à dos permet de transporter plus d'eau. Parce que ça se peut qu'on n'ait pas nécessairement accès partout à l'eau. Et en plus, c'est meilleur pour l'environnement parce qu'on n'utilise pas des bouteilles de plastique qui sont jetées après. Alors, vraiment important. Et les cartes, moi, je suis une
Vous
fanatique,
êtes une fanatique
des cartes papier IGN, notamment, qui sont à grande échelle et qui nous permettent vraiment de voir chaque petit détail et de bien s'orienter, un bosquet, une rivière. un petit pont. Pour moi, les lire, choisir l'itinéraire, c'est un vrai bonheur.
Alors, une bonne partie de votre livre est consacrée justement là aux préparatifs concrets, physiques, et aussi, vous l'avez mentionné à l'autre entrevue, mais aussi il y a quelques secondes, bien préparer le terrain, pour ainsi dire, pour les gens qui restent en place. En fait, vous partez, il y en a qui ne partent pas, veulent avoir des nouvelles, veulent prendre soin de vos choses, bien sûr. Alors, il y a tout cet aspect-là de logistique qu'il faut bien préparer.
Tout à fait. J'ai mis dans mon livre une liste de listes.
Une liste de listes. Oh là là!
Alors, des choses auxquelles il faut penser avant de partir, si ce n'est que notre courrier, nos factures, des choses, évidemment, l'équipement acheté, qu'est-ce qu'on va faire pour nos téléphones, les téléphones qu'on va recevoir. Alors, il y a plein de petits éléments qu'il faut organiser avant de partir. Et notre expérience m'a permis d'en dresser la liste et de faire quelques conseils de ce côté-là.
Il y a une question très importante aussi. Où aller? Où aller en aventure et pourquoi?
Alors, pour nous, nous sommes des amoureux de la France et, comme je l'ai dit, nous voulions connaître d'autres régions de la France qui sont méconnues. Aller vers une France plus authentique, aller à la rencontre des habitants, connaître l'arrière-pays. Alors, pour nous, c'était la destination de choix. En même temps, pour d'autres, leur aventure peut les mener en Asie, ailleurs. Ce qu'il faut considérer, c'est la langue. Est-ce qu'on va être autonome de ce côté-là? Le temps dont on dispose aussi, la période de l'année pendant laquelle on va marcher. Alors, par exemple, si on va marcher au Népal, bien, il faut plus y aller en novembre, alors que c'est plus ou moins intéressant d'aller marcher en France, par exemple, en novembre. Alors, ça aussi, ce sont des éléments à considérer.
Vous connaissiez tous les deux la France, bien sûr. Est-ce que vous auriez pensé à cette grande aventure dans un pays que vous ne connaissiez pas?
Nous avons déjà marché dans des pays que nous ne connaissions pas. Je parlais du Népal, oui, par exemple, mais à ce moment-là, nous y sommes allés avec un guide.
Voilà. Ouais.
Et ça, c'est vraiment important. Pour s'orienter, on ne parle pas la langue, pour aussi connaître la culture du pays, même entrer en contact avec les gens, bien, notre guide sert d'interprète. Alors, c'est complètement autre chose. Quand on part avec un guide qui est dans un voyage organisé versus le genre d'aventure que nous avons faite en autonome et qu'on a tracé nous-mêmes.
Mm-hmm. On doit ressentir un peu plus de nervosité ou d'appréhension lorsqu'on rêve un coin du monde, une partie de la planète qu'on n'a jamais vue, jamais visitée, mais où on veut se lancer à l'aventure.
Se lancer seul. Sans... Oui, effectivement, oui. C'est autre chose. Personnellement, je ne sais pas si c'est quelque chose que je considérerais tout de suite d'emblée. Si je ne parlais pas la langue, notamment, parce que ça pose vraiment des défis. Mais encore une fois, chacun y va avec ses zones de confort et ses goûts, ses besoins.
Et de se laisser aller, justement, à l'aventure.
Exact.
Sylvie, nous prenons une courte pause et nous revenons avec cette discussion, à savoir comment on se prépare, qu'est-ce qu'on apporte avec nous pour cette grande aventure, mais aussi pour préparer, rédiger, produire un résumé, une boîte à souvenirs, comme vous l'avez fait avec votre livre.
D'accord.
Nous sommes toujours en compagnie de Sylvie Grégoire, auteure de « La France pas à pas, côte à côte » et aussi de « La France hors des sentiers battus ». Alors, Sylvie, justement, qu'est-ce qu'on apporte si l'on veut créer un souvenir extraordinaire de notre voyage, comme vous l'avez fait. Alors, mentalement, est-ce qu'il faut se préparer, ou vous vous êtes préparé justement à créer ce récit, produire ce récit avant de partir? Vous le saviez que vous le faisiez avant de partir?
Alors, ça faisait partie d'une des composantes du rêve de cette aventure-là. J'ai toujours aimé écrire et j'adore, je suis une passionnée des mots, des livres. Alors, dans mes rêves les plus fous, je me disais que peut-être au retour, je pourrais mettre en mots cette aventure-là. Et donc, en partant, j'ai posé quelques gestes, notamment mes petits carnets de notes. À la poche de taille, j'avais inséré un petit carnet avec un stylo. Et tout au long du voyage, ça a été mon compagnon fidèle, en plus de mon autre marcheur, François. Et j'ai pris vraiment plaisir au fil des pas, à noter dans mes carnets toutes sortes d'observations, que ce soit des noms drôles ou surprenants de villes ou de maisons ou de rues.
Et ça, vous le faisiez assidûment tous les jours?
Mais je le faisais au fur et à mesure,
oui.
Que l'on
les
marchait.
Notes, oui, c'est ça. Oui.
Alors, j'ouvrais, mais oui, pendant qu'on marchait. D'abord, au départ, je notais la date, l'heure de notre départ, la météo et aussi le lieu de départ. Et ensuite, pendant que nous marchions, si quelque chose de surprenant, d'intéressant survenait, bien, j'ouvrais ma poche de sac et je prenais quelques notes. Ce n'était pas des phrases complètes, mais oui, juste des petits mots pour me rappeler plus tard. Alors, je notais des plantes ou des animaux que je voyais, des choses intéressantes que l'on mangeait ou des lieux particuliers où nous mangions, des constats par rapport à ce que je voyais, les clôtures, des gens qu'on rencontrait, les noms des gens qu'on rencontrait, aussi des annotations relatives aux photos que je prenais.
Surtout parce qu'on a tendance parfois à oublier, mais à quel endroit j'ai pris cette photo, c'est quoi cette photo, la personne que j'ai rencontrée, le magnifique château que j'ai vu. On oublie rapidement, c'est bon de prendre des notes tout de suite.
Je prenais des notes, mais aujourd'hui, avec nos téléphones intelligents, on a vraiment un coup de pouce extraordinaire parce que immédiatement intégré dans la photo, le lieu et la date et l'heure de la photo. Donc, c'était moins un problème que de noter le contexte dans lequel la photo avait été prise ou certains faits en lien avec cette photo-là. Je notais aussi des anecdotes, des aventures qui nous arrivaient et j'ai inséré dans mes carnets des choses que je trouvais le long de la route, une fleur, une plume d'oiseau, un billet de quelque chose. Alors, c'est vraiment devenu... je les ai tous conservés, ces carnets-là. Et c'est vraiment devenu, comme je le disais, le compagnon de voyage dans lequel... qui me suivait là, au fil des pas. Mm-hmm. Et au fur et à mesure que mes carnets se remplissaient, quand j'en avais quelques-uns, je les postais chez nous avec les cartes dont je n'avais plus besoin. Et ça m'a permis donc, ça me permet vraiment de suivre l'aventure au jour le jour.
Et là, vous aviez confiance qu'avec la poste, tout se rendrait à bon port.
Je dois dire que j'ai été chanceuse parce que nous n'avons rien perdu, ça s'est bien rendu.
Au niveau de la caméra, est-ce que votre recommandation, ce serait un bon téléphone portable ou une bonne caméra?
J'avais apporté une moi j'aime beaucoup la photographie, j'en ai toujours fait beaucoup, mais je ne suis pas une professionnelle, là, mm-hmm. loin de là. J'avais apporté une petite caméra qui pouvait s'insérer dans ma poche et mon téléphone. Et au fil, j'utilisais les deux au début, puis je me suis aperçue qu'avec le téléphone, c'était plus rapide et en plus... comme je le disais, le lieu est identifié, l'heure, tout ça. Et la qualité est vraiment excellente de nos jours. Alors, j'ai mis de côté la caméra et je n'ai utilisé à toute fin pratique que mon téléphone intelligent là, tout au long du voyage.
Donc, ça serait votre recommandation?
Oui, je pense que c'est suffisant, d'autant plus qu'aujourd'hui, la qualité des caméras est extraordinaire.
C'est selon la qualité de l'appareil,
ouais,
bien sûr. J'ai une petite question au niveau de vos impressions que vous notiez dans vos carnets. Est-ce que vous les partagiez avec François pour obtenir un peu son appréciation, ses impressions à lui, pour plus tard les rendre dans les textes?
Oui, souvent au repas ou en fin d'après-midi, lors du repos, nous échangeions au sujet de ce qu'on avait vu ce jour-là. Et est-ce qu'il avait la même impression que moi? Est-ce qu'il avait d'autres éléments? Il y avait d'autres éléments que lui avait constatés et que je n'avais pas vus. Alors, effectivement, on a eu plusieurs échanges à ce niveau-là.
Il y a un autre aspect qui est intéressant lorsqu'on part à l'improviste ou sans direction ou ne serait-ce qu'une voie générale où aller. Vous rencontrez beaucoup de gens en route. J'imagine que vous avez peut-être pris des contacts, des adresses, des téléphones. Est-ce qu'on poursuit ces relations, ces amitiés, ces connaissances plus tard?
En effet, ça, c'est un des cadeaux de la route. Il y a plusieurs personnes, il y a quelques personnes en particulier avec qui nous... Et maintenant, ça va faire presque 5 ans, là, plus que 5 ans, mm-hmm. que nous avons complété l'aventure. Et nous sommes encore en contact avec certaines des personnes que nous avons rencontrées, notamment un couple absolument charmant. Quand on dit que des fois des rencontres peuvent changer une vie, alors nous avons rencontré Alix et Peggy sur un chemin près de... dans le sud de la France, et qui sont deux Français. Et d'ailleurs, ils sont venus nous visiter ici, nous là-bas, et ils viennent tout juste de déménager pour vivre au Québec. Alors, cette rencontre fortuite au tournant d'un chemin a mené à une profonde amitié entre nous quatre, et c'était un beau cadeau de la vie et de la route.
Excellent, excellent. Écoutez, vous avez produit 2 livres magnifiques. Est-ce qu'on choisit à l'avance le format, la forme que prendra le récit? Est-ce que c'est venu pendant votre périple? Comment on décide? Où est-ce qu'on décide avant?
L'objectif que j'avais au départ lorsque j'ai commencé à écrire... ça a été merveilleux d'écrire. L'exercice d'écrire m'a permis de retourner sur les routes de France. J'avais mes photos, j'avais mes carnets. J'ai retranscrit mes carnets, ce qui m'a permis de me baigner, me retourner là, dans l'atmosphère. Et encore une fois, au jour le jour, j'avais les photos. Donc, je pouvais avoir accès à différents détails au niveau des lieux. Et j'ai fait quand même beaucoup de recherche au fil de l'écriture, parce que mes objectifs pour le récit, c'était d'inspirer les lecteurs à partir, à se donner ce cadeau-là, à créer leurs propres aventures, avoir le goût de cette liberté, avoir le goût de réaliser des rêves aussi. Alors, je voulais inspirer des lecteurs, je voulais effectivement, comme dans tout livre, les divertir, les intéresser, mais aussi... Moi, j'aime apprendre lorsque je lis. Alors, dans le récit, j'ai fait beaucoup de recherches pour que, à tous les jours, on apprenne sur la toponymie, l'architecture, l'histoire, etc. Alors, je voulais que ça soit coloré et vivant. Et tant les photos que mes carnets m'ont permis de rajouter des détails qui, je l'espère, rendent la lecture intéressante et qui permettent de mieux nous connaître aussi, de connaître les marcheurs, les protagonistes de l'histoire.
Alors, vous vouliez inspirer les gens à marcher, aller à l'aventure et tout, alors que d'autres, ça pourrait être un souvenir de famille, par exemple. Nous avons fait notre premier voyage à tel endroit et on voulait le partager avec vous. Donc, ce n'est pas nécessairement un livre, un bouquin à publier et distribuer en librairie, mais bien un cadeau qu'on fait à ses proches.
Vous avez tout à fait raison. Moi, c'était mon objectif. J'espérais pouvoir écrire et publier, mais mais c'est tout à fait possible de faire un peu la même démarche pour laisser ce souvenir-là, soit aux autres marcheurs dans le groupe. Ça, c'est des fois, on peut partir aussi avec un conjoint, un ami ou un petit groupe. Alors, on peut vouloir consigner par écrit des détails ou ce qu'on a fait pendant cette aventure-là pour donner en cadeau aux autres marcheurs ou pour laisser en souvenir, comme vous avez dit, à sa famille, à des proches. Alors, il y a toutes sortes de motivations qui peuvent pousser à écrire.
Est-ce que vous avez réussi votre pari d'inciter les gens à marcher?
Bien, je l'espère. Comme vous le faites à travers votre émission, la marche, c'est tellement un exercice ou une activité qui fait du bien, qui fait du bien à l'âme, fait du bien au corps. Et comme je disais tantôt, la lenteur, la possibilité d'observer, de remarquer lorsqu'on est en auto ou à vélo, on roule, on regarde en avant, on n'a pas le temps de tout observer comme nous le permet la marche.
Et vous suggérez une lecture, entre autres, qui est de Sylvain Tesson, qui a écrit un livre remarquable pour les auditeurs qui ne le connaissent peut-être pas. Sylvain Tesson, il est bien connu pour ses randonnées, pour ses récits de périples un peu partout. Et un jour, il tombe en bas d'une maison ou en fait d'un toit, quel que soit. Et puis, il se dit, si je m'en remets, je traverse la France à pied. Il l'a fait, il a écrit un merveilleux petit livre. Donc, pour lui, c'était aussi une façon de se remettre à marcher, se remettre en forme et de redécouvrir la vie.
Oui, parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, chaque marcheur peut avoir une motivation différente qui l'incite à partir sur les routes, à aller marcher à plus ou moins longue durée. Certains, c'est parce qu'ils ont une épreuve à surmonter. D'autres veulent se donner un cadeau. Alors, chacun a ses motivations. Pour l'auteur Sylvain Tesson, qui est un poète et qui est vraiment un auteur extraordinaire. Il a écrit « Sur les chemins noirs » et pour lui, c'était de reprendre goût à la vie, guérir son corps, guérir son âme. Et c'est vraiment un livre de toute beauté, là, très poétique. Il a fait une traversée...
Un peu comme la vôtre.
Un peu comme la nôtre, mais à la dure. Lui, il dormait dans les champs, un peu partout, là, le long de la route. Nous, ça a été beaucoup plus dans des petites auberges de charme. Alors, on l'a fait beaucoup moins à la dure que lui, effectivement.
Est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui vous ont inspiré, impressionné?
Oui, j'ai lu Jacques Lacarrière qui a fait une traversée de la France dans les années 70, si je me souviens bien. Son livre s'appelle « Chemin faisant ». Et c'est extrêmement bien écrit, rempli de plein de détails savoureux. Il est lui aussi un poète, il est décédé aujourd'hui, mais et c'est vraiment un très beau livre pour connaître cette France méconnue aussi. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cet auteur-là. D'ailleurs, dans La France pas à pas, côte à côte, je cite plusieurs extraits de différents auteurs qui ont marché eux-mêmes. J'ai beaucoup aimé aussi le livre Marcher, éloge de la lenteur de l'auteur Le Breton.
David Le Breton.
C'est ça, qui est vraiment très beau, très, très inspirant aussi.
Est-ce que vous recommandez aux auditeurs qui veulent s'aventurer comme ça de lire certains de ces best-sellers, si on veut, de la marche d'aventure?
Je recommanderais toujours de lire. Je suis une passionnée de livres et effectivement, ça nous permet aussi de voir d'avoir différentes idées, comment organiser sa marche, qu'est-ce qui nous interpelle plus ou moins. Oui. Il y a différentes façons de marcher, comme je l'ai dit, à la dure, à la Sylvain Tesson, ou de le faire un peu plus confortablement comme nous l'avons fait. Alors, en lisant ces récits-là, on peut être inspiré pour des itinéraires, des régions, des durées. Chacun a sa façon de faire, des motivations.
Pourquoi? Oui.
Oui.
Oui, oui. Excellent. Écoutez, il ne reste que quelques minutes. Je reviens à la France je regarde votre livre là qui, en fait, les photos sont tellement inspirantes. La France hors des sentiers battus. La production de ce livre, que ce soit ce livre ou quelqu'un qui produit ses souvenirs de famille, pour ainsi dire, comment on s'y prend? Parce que c'est assez complexe. Il y a des photos, il y a des notes, il y a des cartes et tout. Comment on met ça tous ensemble? Comment vous vous êtes prise?
Bien, chacun, les deux livres ont une démarche différente, si on veut. Le premier, La France pas à pas, côte à côte, était plus, comme je l'ai mentionné, un récit. Donc, avec mes carnets de voyage, mes photos, mes souvenirs, je suis allée sous la forme du journal. Pour l'autre, dans La France hors des sentiers battus, bien, c'est plus sous la forme d'un guide. Alors, avec les cartes, la recherche, j'ai aussi eu des super bons conseils de la boutique La Tienda d'ici à Compostelle, qui m'a permis d'utiliser certains de leurs trucs, de techniques de pliage et aussi des listes d'équipements. Alors, ça aussi, c'est inclus dans le livre. Mais par rapport à la démarche, comme moi, je suis passée par un éditeur formel, Crescendo, mais c'est aussi possible de faire de l'auto-édition, de procéder d'imprimer son propre livre et de le brocher, de le distribuer à ses proches. Alors, chacun y va d'après son budget, son goût, le temps dont il ou elle dispose.
Alors, c'est bien de se renseigner avant.
Oui, tout à fait.
D'accord. Sylvie, ça a été un plaisir, encore une fois, de vous retrouver en studio. Donc, je rappelle votre livre, premier, La France, pas à pas, côte à côte, et le deuxième, La France, hors des sentiers battus, que je trouve absolument magnifique. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle à l'émission cette semaine.
Merci beaucoup, Denis, pour cette belle invitation. Et j'espère, pour terminer, que les auditeurs seront inspirés de rêver et de partir marcher, soit dans leur quartier ou à long cours dans d'autres régions.
Alors, l'aventure d'une vie pour la vie.
Merci.
À bientôt. Thank you. Alors, nous en sommes rendus dans l'émission à ce moment tant attendu, les trouvailles du serin pèlerin. Alors, bonjour Michel.
Bonjour Denis.
Et de quoi, de quelles trouvailles allez-vous nous parler aujourd'hui?
Cette fois-ci, c'est une trouvaille un peu plus personnelle. En fait, une chronique à propos d'un héritage très spécial que j'ai reçu de la part d'une amie, Hélène Bernier, la conjointe d'un de mes très grands amis qui est décédé l'an dernier.
Et quel est ce mystérieux héritage, Michel?
En fait, le rapport avec la marche, c'est que c'est une collection de 28 bâtons de marche qui a été accumulée par mon ami Paul Montmigny au cours des décennies.
Vous m'interroguez un peu, Michel, d'où proviennent ces bâtons? Il y en a 28 quand même.
Ils proviennent d'un peu partout à travers le monde, mais avant de vous parler un peu des bâtons, je vais vous parler un peu de mon ami Paul Montmigny, oui. Polo pour les intimes, qui est un de mes très grands amis qui avait exactement mon âge et qui est décédé en 2023. Ça va vous faire un peu comprendre d'où est l'intérêt des bâtons d'accord. de marche. En fait, nous, on s'est rencontrés quand on étudiait au collège dans les années 60 et on était tous les deux dans les scouts. Lui dans la troupe de Saint-Denis et moi dans la troupe de Saint-Yves à Québec. Comme vous savez, vous-même, vous avez été dans les scouts et
tout à fait, oui,
c'était
oui.
organisé par paroisse. Oui. Mm-hmm. Et dans les années 60, en fait, on a vu dans une émission préalable avec notre ami Louis Lefebvre que c'était le début du plein air et les scouts et les 4H ont été des organismes très importants pour initier un peu les banlieusards que nous étions au plein air. Chez les scouts, entre autres, il y avait ce qu'on appelait le bâton scout. Oui. On avait des bâtons qui servaient pour la marche, l'identification des patrouilles. En fait, moi, j'avais la patrouille des aigles, hein, donc, et on avait des couleurs après le bâton.
Et moi, les écureuils.
Ah, voilà. Les écureuils, bon, alors, nous autres, c'était aigle audacieux. Et ça différenciait aussi le bâton des simples scouts. Parmi des chefs de la maîtrise, ce qu'on appelait la maîtrise. Et le combat aussi, on pratiquait, je ne sais pas si vous faisiez ça à Ottawa, mais on pratiquait le combat au bâton. Il y avait des façons ça rappelait, je ne sais pas si vous vous rappelez, Robin des Bois, qu'on voyait à la télévision, mais le frère Toc et Petit Jean étaient des adeptes du bâton, en fait. Il n'y avait pas d'épée et d'arc, mais ils se battaient avec le bâton. Puis nous, en pratiquant, on se cognait souvent les jointures. Alors, mon ami Polo, avec ce background, si on peut dire, de scoutisme, a fait carrière toute sa vie en administration, dans différents organismes culturels. Mais ça a été surtout, en parallèle, un aventurier de plein air toute sa vie, avec sa conjointe Hélène, entre autres, et leurs enfants. Et puis, ils m'ont convié à plusieurs reprises à des aventures auxquelles j'ai participé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un épisode de l'émission, je vous ai parlé du camping que j'avais fait avec des Inuits. Sur la côte nord, en fait. Ça, c'était encore une idée à Polo, là, puis il m'avait embarqué dans ça. Donc, c'était, ils ont fait leur voyage de noces en sulpousse en Alaska. Polo a fait des expéditions de canots sur la rivière Arikana puis la Kaniapisco avant même que ces rivières soient bien cartographiées. Donc, vraiment... un aventurier de plein air dont les sortes d'aventures se sont transformées en voyage avec leurs enfants un peu partout sur la planète. Et quand leurs enfants sont partis, une série de voyages de couple qui ont fait vraiment partout. Très bien préparé parce que Polo était quelqu'un de très méticuleux. Souvent, il partait de livres qu'il avait lus et il avait accumulé dans sa vie au-delà de 800 récits de voyages et de voyages de marche et de toutes sortes de voyages. Donc, de ses voyages pendant plusieurs années, il ramenait assez systématiquement, entre autres choses, un couteau qu'il essayait d'échanger à quelqu'un et un bâton de marche pour ses collections.
Ouais, c'est effectivement tout un personnage.
Tout à fait.
Ben alors, parlez-nous de ces fameux bâtons de marche et des circonstances dans lesquelles vous en avez hérité.
Ben, comme je mentionnais tout à l'heure, Polo est décédé en 2023 et sa compagne a décidé de déménager environ une année plus tard de leur maison. Ils avaient ensemble le projet de procéder et de rénover une maison patrimoniale, ce qu'ils ont fait pendant plusieurs dizaines d'années. Ils ont gagné des prix, d'ailleurs, de rénovation de maison patrimoniale. Mais ils habitaient à Saint-Nicolas une immense maison traditionnelle québécoise. Déménager de cette immense maison-là, où ils avaient accumulé des choses pendant des décennies, dans un 4,5, ce que Hélène a choisi de faire, bien là, il fallait casser maison, comme on dit, et puis il y avait plein de choses dont elle ne savait plus trop quoi faire. Cette collection de bâtons-là, elle en a gardé un. mais personne d'autre de la famille était intéressé.
Ah bon?
Et puis moi, je m'étais dit, faut pas que ça s'en aille à... au vidange,
ça,
etc.
Oui.
Fait que j'ai dit à Len, j'ai dit, moi, je vais les recueillir, les bâtons, là, dans le fond, ça me touche beaucoup là, de pouvoir être le dépositaire de ces bâtons-là. Et donc, pour lui-même, la plupart, c'est des bâtons que lui-même avait sculptés. C'est-à-dire qu'il était un peu parti de l'idée des bâtons scouts. On se trouvait une branche quelque part, là, puis on faisait ça. Et puis, dans la tradition du bâton scout, ça prenait un bois local trouvé sur place.
C'est vrai.
Alors là, lui, il essayait de trouver ça avec autant que possible une essence indigène. Il y a des noms d'arbres là, qui sont vraiment spéciaux, qui sont marqués là, sur... Alors lui... Chaque jour, il passait un peu quelques minutes ou même quelques heures des fois à gosser son bâton, puis à le sculpter, puis à y faire des motifs, etc. Des fois, il ajoutait un artefact qu'il trouvait sur place, comme il y a plusieurs bâtons, il y a des morceaux de textile qui sont attachés après le bâton. Et il fallait qu'il rapporte ça au Canada après. Alors, il y a plusieurs des bâtons qui ont été coupés en deux pour être capable de les rentrer dans une valise pour pas que ça se fasse intercepter dans les bagages.
Oui.
Et donc, une fois qu'il revenait à la maison, il posait une étiquette sur son bâton et puis il mettait ça dans un grand panier, dans le fond, où les bâtons se sont accumulés pendant plein d'années. Alors, c'est un peu l'histoire de comment les bâtons ont été... élaboré.
Ah oui, parlez-nous encore en détail là, de en fait, c'est une collection fabuleuse. Là.
Tout à fait. Et donc, avec le bâton que Hélène a gardé, ça faisait 29 bâtons qu'il y avait dans le grand panier, genre un panier pour les parapluies. Là,
Oui.
On pourra mettre d'ailleurs une photo du panier sur le site pour montrer qu'est-ce que ça a l'air.
Excellent.
Et donc, 29 bâtons. Sur les 29, il y en a 19 où l'étiquette était après, mais il en reste une dizaine où peut-être qu'avec le temps, les étiquettes se sont perdues, etc. Mm-hmm. Que j'espère, on va pouvoir... Hélène, c'est une archiviste. Alors, elle documente tout. Et ils ont pris des photos
à tous leurs voyages.
Peut-être qu'on serait capable, à partir des photos, de retrouver les endroits pour les 10 que je n'ai pas. Il y avait une date aussi sur l'étiquette. Il y avait le lieu et une date. Et les dates vont de 2001 à 2016, mais peut-être qu'il y en a eu avant ou pas après, là, mais avant. Mm-hmm. Sur les 29, il y en a 27 qui ont été gossés, si vous me passez l'expression, par Polo, mais il y en a deux qui a acheté. Un qui était du Mali et un autre qui était de la région de l'Ardèche en France, parce qu'il était particulièrement bien sculpté et attrayant. Et puis, je vais juste vous faire la liste des lieux à partir desquels les bâtons ont été étiquetés. Les Alpes de Haute-Provence, l'Ardèche, l'Arizona, le Bhoutan, la Corse, le Mali, la Mongolie, le Mont Albert, le Mont Blanc, le Mont Everest, le Népal, la Patagonie, Poinégamouk, le Sikkim, qui est une province de l'Inde, Saint-Antoine-les-Fonds, Saint-Nicolas, le Vercors et le Vietnam. Alors, comme vous voyez, il y a des choses du Québec et des choses de très loin ailleurs au Québec. Mm-hmm.
Alors, vous avez récupéré la collection. Qu'allez-vous en faire?
En fait, je suis en train d'en faire un inventaire assez détaillé. Là. J'ai commencé avec des photos, j'ai les mesures. Je les essaye. J'ai recollé ceux qui étaient défaits en deux. Là. Il y avait un clou, mais des fois, en marchant, ça se décolle.
Oui.
Donc, j'ai commencé à en essayer plusieurs. Et j'avoue que c'est assez émouvant. T'sais, on sent la main un peu de mon ami qui l'avait faite pour sa hauteur, etc.
Oui.
Là,
oui.
Donc, et puis, il y en a vraiment de tous les poids, de toutes les grandeurs. Il y en a comme deux genres. Il y en a un qui c'est comme comme une hauteur de canne. Là.
Mm-hmm.
Mais la plupart, c'est des bâtons de grande hauteur comme
c'est
on
ça,
était
oui.
habitués. Là. Alors, moi, j'aime mieux marcher quand je marche dans la durée avec mes bâtons télescopiques. Puis je pense que je ne ferai jamais de marche de longue durée avec ces bâtons-là.
Avec ces bâtons à lui, là, oui.
Mais même de les essayer quand même, je trouve ça intéressant. Et puis, dans l'optique de partager un peu ce trésor, j'ai offert à l'Association du Québec à Compostelle, avec l'autorisation d'Hélène, qui a eu la gentillesse de me... léguer ces bâtons, de faire une activité spéciale de l'association. pour le 25e anniversaire de l'association qui va avoir lieu en 2025.
C'est ça.
Et donc, je l'ai réoffert parce que c'est des gens qui sont des marcheurs, donc qui pourraient apprécier d'avoir un souvenir de cette nature-là. Je leur ai offert qu'on pourrait prendre 25 des bâtons. Et ensuite de ça, de faire comme un tirage parmi les personnes intéressées de l'association lors du grand rassemblement pour fêter le 25e anniversaire. Et Hélène est allée sur les chemins de Compostelle cet été. Et une des petites filles de Paul et Hélène est aussi allée sur les chemins de Compostelle. Donc, il y a comme quelque chose là. J'ai pas encore eu de nouvelles de l'association, mais ça pourrait être une très belle occasion, dans le fond, de donner au suivant à partir d'un héritage dont je suis très choyé d'avoir justement hérité.
Formidable. C'est un moment très émouvant pour vous.
Oui.
Michel, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment mémorable, cette collection exceptionnelle, et au grand plaisir de vous revoir, de vous écouter à la prochaine Trouvaille du Serein Pèlerin.
Comme vous voyez, il y aura des trouvailles de tous les ordres.
Partout. Merci beaucoup, Michel.
Ça
à bientôt.
Ça m'a fait plaisir.
Chers amis, c'est ici que se termine l'épisode de Marcher vers le bien-être. Comme toujours, nous espérons qu'il vous a plu. Merci beaucoup à nos invités Sylvie Grégoire et notre serein pèlerin Michel O'Neill. Merci également à notre maître de la régie aujourd'hui, Lysandre Duplé. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Vous pouvez également y laisser suggestions et commentaires sur l'émission. Je vous laisse cette semaine avec une pensée de Jean Giono. Les sentiers battus n'offrent guère de richesses, les autres en sont pleins. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.